Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, tous nos voeux de l'Oratoire du Louvre et de Saint-Eustache, tous nos voeux pour une belle année biblique, belle année liturgique, belle année spirituelle, plein de bonnes choses, plein de bénédictions à chacune et à chacun. Alors, nous sommes ce soir réunis pour cette quatrième session de ce programme qui nous rassemble chaque mois autour des cités bibliques. Et nous avons commencé en octobre dernier avec Babel, puis nous nous sommes transportés à Jéricho, et puis nous voilà arrivés à Nazareth, un peu avant Noël. Et puis maintenant que Noël est passé, nous allons suivre Jésus, et nous allons voir que les villes ne lui font pas toujours le meilleur accueil, et qu'en tout cas cet accueil est pour le moins mitigé. C'est donc à Capharnaüm, cette ville de Galilée, cette ville assez symbolique que l'on peut encore visiter, qui propose un certain nombre de très beaux vestiges aujourd'hui encore. C'est donc à Capharnaüm que nous allons nous demander si au fond, dans nos villes, Jésus d'une certaine façon ne prêche pas dans le désert. C'est d'autant plus un questionnement que ce chapitre de Matthieu que nous allons regarder, que nous allons lire d'abord, entendre, et puis qu'ensuite nous allons essayer de commenter ensemble, ce chapitre de Matthieu nous met justement en face à face Jean le Baptiste et Jésus, et puis ensuite Jésus face à toutes ces villes qu'il traverse, où il rencontre des gens et où l'accueil qu'il reçoit n'est certainement pas à la hauteur de nos espérances. Alors, je vais laisser la parole à Marc d'abord, et puis ensuite nous allons lire ce chapitre, toujours dans la traduction assez moderne de Bayard, qui nous permet littérairement de nous transporter dans le texte.
Donc, grand merci à Hervé pour cet accueil et puis pour toutes ces réunions, donc avec joie, même si, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un petit peu dans la tristesse, de la traîtrise qu'il nous fait en allant à Marseille. Donc, on attaque la dernière ligne droite, malheureusement, donc avec Hervé. C'est quand même dans la joie d'avoir ces quelques séances encore qui nous restent devant nous, à lire l'Écriture ensemble, donc c'est vraiment avec joie. Alors c'est vrai que pour commencer l'année, on a un texte qui est quand même pas évident, donc avec vraiment la place pour le doute, pour l'interrogation, le questionnement, et un appel à vraiment se décider, à vraiment choisir de suivre le Christ, de le recevoir, et ça c'est quand même assez sympathique d'avoir cet appel à la conversion pour le début de l'Évangile. Donc, bravo, et on va peut-être entendre donc la lecture de ce chapitre 11 de Matthieu, de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Alors, notre lectrice préférée.
La rumeur des actions accomplies par le Christ Jésus parvint jusqu'à Jean, qui se trouvait alors en prison. Ce dernier envoya ses disciples demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Il leur répondit : « Retournez auprès de Jean. Dites-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts sont tirés de leur sommeil. L'Évangile est annoncé aux pauvres, joie de celui que je ne fais pas trébucher. » Les disciples repartirent. Alors Jésus se tourna vers la foule et parla ainsi de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Qui êtes-vous allé voir ? Un homme et ses beaux habits ? mais ceux qui portent de beaux habits vivent dans les demeures des princes. Qui êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Assurément. Mais je vous le dis, cet homme-là est beaucoup plus qu'un prophète. Il est celui dont on a dit « J'ai envoyé mon messager en éclaireur pour qu'il t'ouvre le chemin. » Croyez en ma parole. Jamais femme n'aura mis au monde un homme supérieur à Jean le Baptiste. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est encore plus grand que lui. Depuis Jean le Baptiste jusqu'à présent, le règne des cieux est en proie à la violence. C'est le triomphe des violents. Tous les prophètes et l'enseignement ont prophétisé jusqu'à Jean. Pour le comprendre, il faut le voir comme cet Élie annoncé. Que celui qui a des oreilles entende. À quoi comparait cette génération ? On dirait des enfants au marché qui arrêtent d'autres enfants. Pour vous, nous avons joué de la musique, mais vos pieds n'ont pas dansé. Nous avons chanté une complainte, mais vos mains n'ont pas marqué la douleur. Quand Jean était là, il se privait de manger et de boire. Et certains ont dit, un démon l'habite. Le Fils de l'homme, lui, a mangé et a bu. Et d'autres ont dit, il baffre, c'est un ivrogne, qui fréquente les collecteurs d'impôts et les hors-la-loi. Mais la sagesse s'est révélée sagesse dans ce qu'elle a fait. Il fustigea ensuite les villes qui avaient été témoins de ces actions d'éclat, sans rien changer à leur existence. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde. Si les actions d'éclat accomplies chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, ces villes auraient aussitôt changé et pris le sac et la cendre. Aussi, croyez-moi, au jour du jugement, Tyr et Sidon connaîtront un meilleur sort que vous. Quant à toi, Capharnaüm, tu te crois au pinacle, tu retomberas dans les profondeurs des morts. Si les actions d'éclat accomplies chez vous l'avaient été à Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. Aussi, je vous le dis, au jour du jugement, la terre de Sodome connaîtra un meilleur sort que toi. Il ajouta, « Je te suis reconnaissant, Père, maître du ciel et de la terre. Aux savants, aux grands esprits, tu as caché ces choses pour mieux les dévoiler aux petits. Père, voilà ce qui t'a réjoui, je t'en suis reconnaissant. Toutes choses, le Père me les a confiées. Seul le Père reconnaît le Fils, et seul le Fils reconnaît le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui êtes inquiets et accablés, je vous ferai trouver le repos. Portez mon joug. Faites vôtre mes enseignements. Mon cœur est doux, il se plaît avec les petits. Vous connaîtrez le repos, car mon joug est agréable et léger mon fardeau. » C'est là.
Merci pour cette belle et longue lecture, finalement, parce que c'est quand même tout un chapitre que nous avons là. Voilà. Donc on commence par les premiers versets. Voilà. Donc on prend tranquillement cette lecture. Donc on voit Jésus qui donne des instructions à ses 12 disciples. Alors c'est vrai que nous, quand on voit 12 disciples, on pense tout de suite aux 12 apôtres. Et effectivement, dans l'évangile selon Matthieu, ils sont appelés tantôt disciples et tantôt apôtres. Ça montre peut-être que apôtre, bon, ça semble être un état, alors que c'est avant tout déjà une fonction, en fait. C'est vrai que c'est peut-être dommage que ce mot soit pas traduit dans nos traductions. Apôtre, c'est tout simplement envoyé, voilà, un émissaire, un ambassadeur. Donc c'est l'idée d'être envoyé, voilà, c'est ça. Donc ils sont en tant que disciples, c'est-à-dire en tant que personnes qui suivent Jésus, qui apprennent de lui et pas, pas en tant qu'apôtre finalement. Alors ça donne peut-être aussi une idée de respiration pour nous-mêmes, de sentir notre vocation personnelle et en même temps de savoir que nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi disciples, c'est-à-dire au bénéfice de quelque chose de plus grand qui nous donne une force, qui nous donne une sagesse, qui nous donne aussi quelque chose de plus. Et je crois que c'est ça, effectivement, que l'on va voir dans ce texte, quelque chose qui nous donne une énergie, une force, pour nous laisser transformer par le Christ, mais pas seulement, mais peut-être aussi pour passer ensuite à une deuxième étape où nous serions peut-être envoyés à ce moment-là, c'est-à-dire répondant à une vocation.
Oui, et probablement que avec ces 12 disciples, le face-à-face avec Jean-Baptiste est d'autant plus marqué. Jean-Baptiste, nous nous en souvenons, a décidé de quitter les villes pour aller dans le désert. Jean-Baptiste est sur les eaux du Jourdain. Et voilà que nous avons un homme, Jésus, qui a des disciples comme Jean le Baptiste et qui, j'allais dire en vis-à-vis de Jean le Baptiste, décide d'aller proclamer dans les villes, dans leur ville. Je crois que ça nous dit déjà quelque chose de la mission de Jésus qui ne prêche pas, je dirais, l'éloignement, qui va au cœur de la vie, au cœur de l'existence de toutes ces personnes. Et d'une certaine façon, ce chapitre 11, qui est d'ailleurs assez unique, il n'y en a quasiment pas de traces chez Marc, et on en retrouve des éléments chez Luc, mais qui semble indiquer que Luc et Matthieu ont une origine commune qui n'est pas Marc. Et en tout cas, on peut penser que ce chapitre 11 reflète très largement une rédaction mathéenne où beaucoup nous est dit, comme souvent, dans le face-à-face entre deux personnes, surtout quand l'une des deux est Jésus. Et dans ces cas-là, il faut prendre Jean le Baptiste comme ce vis-à-vis, comme cette personne qui va mettre en relief ce qu'est Jésus. Et assez curieusement, donc on voit Jésus d'un côté avec ses disciples qui enseignent et proclament, j'allais dire qui réalisent son programme de Messie tel qu'il était annoncé par Jean. Mais très rapidement, on va s'apercevoir qu'il n'est précisément pas tout à fait le Messie de Jean le Baptiste et qu'il y a donc à un moment une séparation, une distinction. Parce que précisément le Messie que proclame Jean ne correspond pas à l'incarnation de Dieu qui est pleinement Jésus. Et je crois que ce chapitre est d'autant plus intéressant qu'on peut comprendre en quelque sorte la déception, l'interrogation, le doute qui s'empare de Jean le Baptiste et que c'est face à ce doute, cette interrogation et cette déception qu'on commence enfin, j'allais dire, à comprendre qui est Jésus, qui surpasse et qui dépasse toutes les attentes, tout en les accomplissant, qui dépasse les attentes de l'Ancien Testament, qui se clôt en quelque sorte dans la vision de Jean.
Ah oui, moi j'ai bien aimé ce que tu dis, c'est que Jésus va dans leur ville. Donc en fait, là finalement, c'est Jésus qui est l'envoyé dans un sens, qui va vers les gens, qui va au milieu du peuple. Ça, c'est intéressant. Alors pour enseigner et prêcher, alors moi je crois que déjà, effectivement, si on met ces deux mots, c'est quand même pour dire qu'il y a deux choses que Jésus nous apporte, un enseignement. Oui, il y a une philosophie chrétienne, une éthique chrétienne, une théologie chrétienne qui est quand même intéressante. Donc, qui est de l'ordre de la connaissance et du savoir. Et puis, la proclamation, c'est d'un autre ordre quand même. C'est pas simplement une annonce, pas simplement de la théologie, pas simplement de la philosophie, ou une certaine conception de l'existence, une certaine façon d'être, une façon de vivre, une façon de croire en Dieu. Il y a aussi autre chose qui est de l'ordre d'un cheminement, on pourrait dire, d'une transformation de l'être, de quelque chose de plus que simplement la connaissance. Alors si je dis ça, c'est parce que, comme tu le disais, Hervé, il y a là visiblement une tension entre Jean-Baptiste et Jésus. Il est déçu, mais en même temps, s'il était déçu seulement, il ferait comme tant d'autres, il abandonnerait Jésus. Peut-être comme, par exemple, Judas à la fin de l'évangile, ou bien tant d'autres. On le voit aussi dans l'évangile selon Jean, les gens qui sont déçus, puis tout le monde commence à partir. Et on a un peu de cette déception, mais de cette espérance aussi dans les disciples qui disent, on serait bien parti. Alors Jésus dit, mais vous-même, pourquoi vous partez pas? Il dit, on y a bien pensé, mais t'as quand même les paroles de la vie éternelle, quoi. Donc, il y a une déception, une surprise, quelque chose qui est en décalage en Jésus, mais il y a quelque chose quand même qui est reçu, qui est intéressant, qui change la vie. Voilà, on est dans l'entre-deux, et je crois que c'est intéressant pour nous aussi de saisir ça. On a le droit, on a le droit d'être, pour l'un et pour l'autre des deux volets, intéressé, séduit, touché, au bénéfice d'une certaine annonce, une certaine connaissance et aussi une certaine transformation de l'être, et en même temps toujours un peu surpris, déçu. Voilà, on est toujours un peu dans cet entre-deux. Donc, je crois que c'est assez sain, S.A.I.N., de le reconnaître tranquillement, en se disant, on n'est pas à l'usine, on fait ce qu'on peut, on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ensuite, qu'il y ait cette tension entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus, je crois qu'à cette heure d'aujourd'hui où on évoque beaucoup les difficultés des chrétiens, mais pas seulement finalement, à vivre avec les autres, en particulier dans les pays du Moyen-Orient, dans ces terres là-bas finalement, en particulier en Irak, il reste les disciples de Jean-Baptiste, en fait, qui ne sont pas devenus chrétiens. Ils s'appellent les Mandéens ou les Sabéens, et donc on les connaît. Ils pratiquent le baptême par immersion. Ils respectent Jésus-Christ et ils disent que Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, tout ça, c'est de la blague et que c'est pas bon à suivre. Donc, en fait, une religion gnostique, c'est-à-dire qui est basée sur une connaissance. Donc sur un enseignement finalement. Et peut-être que là, il y a un reste historique de personnes qui étaient les disciples de Jean-Baptiste et qui ne se sont pas devenues chrétiennes. Donc ils continuent à parler araméen, ils ont une liturgie en araméen, ils ont un enseignement en araméen, mais il y a un alphabet, mandéen, qui date de ces époques-là. Et moi je trouve que c'est assez touchant dans ces mandéens. Ils étaient quelques centaines de milliers du temps de Saddam Hussein. Et quand il y a eu la chute de Saddam Hussein, ils se sont dit, youpi, on va pouvoir vraiment enseigner nos enfants à voir nos rites, notre religion. Bon, ça a été de mal en pis, je crois qu'il en reste peut-être 5000. Tous les autres ont été coupés en tranches fines ou ont immigré beaucoup vers la Suède, je crois. Enfin, il y en a en France, des Mandéens qui existent. Voilà. Donc, on a une petite pensée, je trouve, pour ces disciples de Jean-Baptiste et pour leur foi, leur religion, tranquillement. Alors, Jean, donc, il est quand même intéressé, visiblement, par ce que fait Jésus. Alors, on dit qu'il avait entendu parler des œuvres du Christ dans sa prison. Comme toujours, vous m'attendez au virage. S'il y a marqué dans sa prison, l'évangile n'est pas pour parler, pour ne rien dire. Si on nous donne ce détail, c'est pas pour nous distraire, ça n'ajouterait rien, simplement nous dire il était dans son salon en train de regarder la télé, ou qu'est-ce que ça peut faire. Non, on nous dit qu'il était dans sa prison. Je crois que c'est pour évoquer aussi quelque chose pour nous, pour qu'on soit à la place de ce Jean-Baptiste. Voilà. On est quelque part dans notre prison, on entend parler du Christ et ça nous évoque quand même à nous quelque chose. On est dans la prison, peut-être du doute, peut-être d'une certaine connaissance, peut-être d'un certain aveuglement, peut-être de notre faiblesse, peut-être de tout un tas de choses. Il n'y a pas de honte. La Pâque, justement, aussi bien la Pâque juive que les Pâques chrétiennes, évoquent une libération. Voilà. Une libération dont nous sommes au bénéfice, mais qui vient de Dieu, finalement, qui n'est pas une libération que nous pouvons forger avec nos petites mains. Donc, c'est de ça dont on parle. Quand on voit prison, ah, voilà, on est prisonnier. Et on se rappelle la prédication de Jésus à Nazareth, il s'adresse voilà, que les esclaves, les prisonniers entendent ce souffle de libération, voilà, qu'il est venu pour apporter. Donc déjà, ça fait tilt quand même. Déjà, quand on voit prison, quand on évoque voilà, le salut qu'apporte Jésus-Christ, quand on évoque cette figure de Moïse, de la libération hors d'Égypte pour aller vers la terre promise, pour être en plénitude avec, dans la promesse de Dieu, ben déjà, voilà, on est un peu dans le paysage. Nous sommes ce genre. Dans une certaine mesure, nous sommes dans une prison. Nous avons entendu parler de Jésus. Ben oui, c'est vrai, ça. C'est grâce à des témoins qui, à travers de génération en génération, à travers 2000 ans d'histoire, ben nous ont apporté, voilà, ce qu'a fait le Christ. Et nous-mêmes, ben nous sommes dans ce doute en disant, ben oui, il y a des choses intéressantes, des choses qui nous surprennent, qui nous déçoivent peut-être dans Jésus de Nazareth, dans ses paroles, dans la Bible, dans la religion, dans l'Église, ô combien ! Infiniment plus dans la religion, bien sûr, dans nos églises, dans les autres chrétiens, oui, bien sûr, qui ne sont pas, comment le seraient-ils, à la hauteur de cet idéal, de ce souffle incroyable. Donc oui, on est un peu déçus, en même temps un peu intéressés, on est dans cet entre-deux que tu nous évoquais, Hervé.
Oui, alors, il convient de repartir d'ailleurs dans cette position de Jean. Petit rappel historique, vous en souvenez sans doute, hein, à travers les grands tableaux que nous ont légués tous ces artistes, Salomé, Hérodiade, Hérode, la tête de Jean-Baptiste. Donc, ce qu'il est en train de vivre est apparenté naturellement à du martyr. C'est-à-dire que voilà un homme qui a donné sa vie pour son Dieu, pour aller le proclamer, aller le présenter à la face du monde, et j'allais dire pour toute récompense, voilà que cet homme est en prison, et qu'il entend parler de ce Jésus dont il pense, dont il croit penser, qu'il est ce Messie qu'il proclame. Et le Messie qu'il proclame, c'est notamment, vous le savez aussi, celui qui vient accomplir les prophéties, accomplir les Écritures. Or, que nous disent les Écritures, notamment chez le prophète Isaïe, Isaïe qui est sans doute la principale source d'inspiration chez Matthieu pour le Christ lui-même? Eh bien, souvenez-vous-en de ses plus belles paroles, il est venu faire voir les aveugles et il est venu délivrer les captifs. Il est venu pour apporter aux captifs la libération. Et comment quelqu'un comme Jean ne peut pas éprouver dans sa propre chair l'inanité d'une telle phrase concrète dans son existence? Voilà cet homme qui, par sa foi et par sa fidélité à sa loi, se retrouve en prison du fait d'un mauvais roi, Hérode, en tout cas quelqu'un qui s'est laissé en tout cas influencer par des vilaines femmes, Hérodiade et sa fille. Ah, il faut bien qu'il y ait quelques traits un peu forts dans les récits, hein, et les contes orientaux savent nous les présenter. Et voilà que qui est puni dans l'histoire? Bon, à la fin de l'histoire, le méchant périra de vilaine façon, mais cependant, et la tradition nous dit d'ailleurs que la fille d'Hérodiade, Salomé, se retrouve à la suite de Jésus, hein, dans certains récits, hein, elle est convertie. Donc on arrive à trouver des belles fins, mais il faut comprendre ce Jean qui connaît l'échec, voilà, comme tous ces gens pleins d'espérance, pleins de bonne volonté, de générosité, de foi, et qui se heurtent au mur de l'incompréhension, à la violence, à la méchanceté humaine. Et voilà que le Christ se présente, et que ce Messie qui doit délivrer, qui doit libérer Israël, tu parlais tout à l'heure de Judas, mais quelle déception! Que ce Messie qui doit libérer Israël du joug romain n'en fait rien, apparemment. Est-ce que Jésus s'attaque à Hérode? Que nenni! Est-ce que Jésus proclame la guérilla, l'intifada? Que nenni! Est-ce que Jésus s'attaque au mur de l'argent? Non. Donc, ça ne fonctionne pas de la façon dont une certaine lecture de l'Écriture peut espérer. Donc Jean le Baptiste est un homme sincère, entier, plein de zèle. C'est d'ailleurs, nous dit Jésus, le plus grand des prophètes. Mais il y a une phrase un peu plus loin qui doit nous éclairer, c'est que même que si c'est le plus grand, qu'il est plus qu'un prophète, eh bien pourtant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Il y a donc un saut à faire, qui est le saut de la foi, qui est le saut du christianisme, en quelque sorte. Et c'est en comprenant, en assumant pleinement Jean le Baptiste, que nous sommes tous, avec nos espérances, avec tous nos espoirs, avec notre envie que le monde change, que les dictateurs s'effondrent, que tel président laisse sa place au président démocratiquement élu, que la République haïtienne connaisse enfin la démocratie, que le dictateur coréen s'effondre, que je ne sais. Et tout cela est parfaitement légitime. Mais est-ce que le Jésus-Christ que nous rencontrons, est-ce que c'est celui qui vient accomplir ce programme? Est-ce que c'est celui-là qui vient changer les résultats des élections? Eh bien non, il semble que ça ne se passe pas à ce niveau-là. Alors, doit-on en chercher un autre? Faut-il en attendre un autre? Faut-il en espérer un qui nous libère, enfin? Et c'est, je crois, là, la question et le doute de Jean-Baptiste, une question existentielle, contemporaine, une fois encore. C'est-à-dire, eh bien, nous proclamons un Messie qui triomphe du mal, de la mort, du péché. Et qu'est-ce que nous voyons? Tous baptisés que nous sommes, tous croyants que nous sommes, est-ce que nous sommes plus protégés, plus parfaits, plus purs? Est-ce que nos ennemis, comme les psaumes l'y engagent, est-ce que nos ennemis sont effondrés? Est-ce que le mal reflue? Est-ce que la mort disparaît? Mais alors, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Et ça, c'est une question que bien des contemporains nous jettent à la figure. Et avec une légitimité tout à fait honnête, mais ce sont les gens au pied de la croix, mais si tu es le roi des Juifs, mais descends, mais sauve-toi toi-même, et comme dans toutes nos tentations, envoie une légion d'anges, rien de tout cela. Alors voilà, ce désarroi, ce trouble face à Jésus, c'est celui de tout homme généreux qui a envie que ça change et qui constate que ce n'est pas demain la veille.
Alors, en disant ça, je pensais à ce que... Il y a même les apôtres. Hein. Après, dans le début des Actes des apôtres, il y a les apôtres qui disent à Jésus, « Mais quand est-ce que tu rétabliras le royaume en Israël ?» Alors ça va venir un peu cette affaire de la justice qui vient, etc. Et puis Jésus dit, c'est pas tout à fait comme ça. Vous recevrez une puissance, elle va vous traverser finalement, et c'est vous qui irez annoncer. Et donc, dans un sens, c'est décevant. On espérait assister avec grand plaisir, grande joie, au monde qui se met en ordre. Et donc, il y a cette déception. Alors moi, je trouve quelque chose d'intéressant quand même dans ce que dit Jean-Baptiste. Es-tu celui qui... Alors, je ne sais pas comment c'est traduit là. Es-tu le venant, donc celui qui est... Donc, c'est un participe présent. Et ça, c'est quand même touchant. C'est-à-dire que l'état même de Jésus...
C'est celui qui vient.
...est celui qui est en train de venir, qui est venant, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on dit dans l'Évangile selon Jean que Christ est cheminement, voilà, et la vérité ou la fidélité et la vie, c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment cette idée que par nature, Jésus, le Christ, est venant, est en mouvement, en train de venir, ni tout à fait venu encore. Et voilà, c'est au verset 2, au verset 3. Hein. Es-tu le venant ou devons-nous en attendre un autre ? Moi, je trouve déjà qu'effectivement, on peut se dire, ben voilà, Jésus, finalement, c'est pas mon truc et ça, voilà, ça m'intéresse pas. On a le droit. Mais au moins, il faut attendre quelque chose. Et moi, je trouve quand même que beaucoup, je veux pas critiquer, c'est spécialement pas le lieu parce qu'on nous invite à pas tellement être dans ce style. Mais bon, il y a tellement de gens dans nos contemporains qui n'attendent plus rien, voilà. Qu'il soit, je ne sais pas moi, qu'il soit au moins bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit communiste, mais qu'il soit quand même dans une attente. Voilà. Qu'il soit dans une attente, qu'il soit dans une espérance, qu'il soit dans quelque chose. Alors moi, je pense effectivement qu'il vaut mieux suivre le Christ, reconnaître dans le Christ le venant, celui qui, voilà, qui n'est pas... Je comprends la déception en même temps. Voilà, quand c'est en train de venir, ben, c'est pas encore tout à fait là. Donc évidemment, on peut dire, ben, je préférerais qu'il soit entièrement là, et tant qu'il n'est pas entièrement là, ça ne m'intéresse pas. Bon, il y a une déception en soi-même. Mais cela dit, cette dynamique d'un royaume qui s'est déjà approché, et ce n'est pas simplement là une idée théologique abstraite, hein, il y a marqué... Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Voilà. C'est pas simplement une vague promesse dans le futur. C'est quelque chose déjà dont on peut être les témoins, pas simplement des perroquets qui racontent une belle utopie ou un rêve ou des promesses pour la Saint-Glinglin, mais voilà, dire mon expérience d'une transformation. Donc que le Christ est déjà vraiment venu, même s'il faut encore l'attendre, il est quand même déjà vraiment venu. Et alors, Jésus leur dit, allez rapporter à Jean. En fait, si on lit bien de près, là aussi il y a un participe présent, il y a marqué, en allant annoncer à Jean. Donc finalement, vu du point de vue de Jean, les venants, ça sera ces témoins de Jésus-Christ, vous comprenez ? C'est-à-dire que là encore... Il faut qu'ils annoncent ce qu'ils ont vécu finalement, ce qu'ils ont expérimenté avec le Christ, qu'ils l'annoncent là encore dans une sorte de mouvement vers Jean-Baptiste. Alors c'est un peu surréaliste quand c'est dit comme ça, mais quand même, je pense que, bien sûr, nous sommes témoins du Christ, témoins de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Donc les gens qui nous regardent vivre, bien sûr, peuvent être déçus de notre façon de vivre, qui est quand même relative, limitée, pécheresse, tout ce qu'on veut. Mais quand même, s'il y a quelque chose qui peut les toucher, c'est peut-être qu'on soit un peu en progrès, peut-être on peut peut-être nous espérer ça de nous, ou nous, c'est un défi qu'on peut se donner, de pouvoir être... que les gens peut-être sentent qu'on fait un effort, que ça progresse un peu. Bon, on est un peu d'accord, je veux bien reconnaître qu'on est un peu nul, qu'on est source de déception pour les autres. Bah oui, mais au moins qu'on puisse être un peu témoin que ce salut en Jésus-Christ, il nous a un peu transformés, voilà, quelque part, non ? Alors je crois que c'est ça qui est dit finalement dans le verset 5. Hein. Il annonce une transformation de notre être. Alors, peut-être la traduction est un peu trompeuse, ils ont mis « les aveugles », mais moi je ne sais pas si c'est comme ça, parce que moi je ne vois pas de pronom défini finalement, c'est « des aveugles » plutôt, oui, non oui. Bah, ce n'est pas tous les aveugles, on sait très bien, Jésus est venu, pourtant il y a des aveugles encore qui existent. Hein. Donc ce n'est pas les aveugles qui ont retrouvé la vue, c'est non, c'est quelque part dans notre existence, on a un peu quelque chose qui était aveuglé. On a été témoins de personnes qui ne voyaient pas bien clair et qui, par la foi en Jésus-Christ, ont vu un peu plus clair. Donc ça, c'est pas simplement dire des légendes, j'allais dire des légendes pour bonnes femmes, mais comme on a déjà tapé sur les sur les saintes femmes qui étaient autour d'Hérode, c'était pas sympa. Donc faut trouver autre chose. Attends, voyons, je veux dire, des légendes pour des contes pour enfants. C'est pas des contes pour enfants, voilà, disant ah il y a des aveugles, hein, c'est ben non, c'est voilà, on peut être témoin que dans notre vie, dans notre entourage, ben, y a des gens qui ont reçu une capacité à voir plus clair par le Christ. Voilà, des boiteux, des...
Oui, et en même temps, il semble encore une fois que ce ne soit pas des événements surnaturels, j'allais dire triomphants, des manifestations, il n'y a rien de magique. Voilà. La maladie n'est pas guérie, les mots ne disparaissent pas, il n'y a rien de magique. Au contraire, il y a quelque chose d'assez subtil. Tu disais ce petit changement, et je crois que on peut commencer d'ailleurs lorsqu'on est plein de zèle, lorsqu'on est converti, lorsqu'on est fraîchement baptisé, je dirais, à vouloir, ouais, voilà, que tout change, que rien ne soit plus pareil, etc. Et puis donc il y a forcément la phase de déception. Et ensuite, il y a une autre manière de regarder les choses. Et ce qui est assez rassurant dans nos évangiles, c'est qu'on comprend bien que de Pierre à Paul, enfin, disons en tout cas de Pierre à André et de Élie à Jean-Baptiste, tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose avec le Seigneur, que c'est quelque chose de puissant, mais personne n'arrive totalement et pleinement à comprendre Jésus, Christ. Je veux dire, il est toujours au-delà du saisissable, au-delà des catégories. C'est pas si simple. Et c'est assez rassurant parce que je crois qu'aucun de nous ne peut prétendre à dire, voilà, moi je sais qui est Jésus, c'est ça, 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 ça. Non, c'est extrêmement subtil, mais c'est extrêmement profond. Et je dirais extrêmement intime. Je dirais que l'action de Jésus en nous, comme dans le monde, est quelque chose de profond, de discret, mais probablement, sans doute, de beaucoup plus important que toutes les choses, je ne sais pas moi, gagner au loto ou je ne sais quoi. Non.
Pourtant, c'est pas mal ça.
Ben oui, mais alors il y a plein de gens qui diraient, ah ben pourtant, on croirait si. Mais ce n'est pas ça. On est dans toute autre chose. Et effectivement, Jésus ne provoque pas une catalepsie à Hérode. Il ne fait pas tomber les murs de Jéricho. Il ne fait pas abattre... voilà. Mais en revanche, il se passe quelque chose. Probablement que Jean le Baptiste, d'ailleurs, lorsqu'on lui rapporte ce qui est vu et entendu, doit comprendre qu'au fond, Jésus ne va pas le changer, ne va pas changer sa vie au sens l'envoyer à l'autre bout de la planète ou je ne sais quoi, mais c'est probablement qu'il va l'aider à assumer et à comprendre l'immensité à laquelle il fait hommage, il rend hommage de sa mission et en même temps sa limite. C'est-à-dire que même un autre évangéliste nous dira qu'il faut qu'il s'efface pour que Jésus grandisse. Je veux dire, c'est même, et il le comprend progressivement sans doute, c'est même sa destinée au sens mission assumée, comprise et probablement acceptée par Jean le Baptiste. Et voilà, et je crois que les évangélistes, par petites touches, en nous rapportant tout ceci, nous font comprendre, nous font rencontrer un peu mieux cet homme nommé Jésus, en même temps que le Père. Car qui comprend de mieux en mieux Jésus comprend de plus en plus Dieu, si tant est que Dieu soit compréhensible. Et il le comprend dans l'amour, la simplicité, la discrétion et toutes ces petites touches que l'on comprend et que l'histoire de cet homme, ses rencontres, sa façon d'être, nous font... ça ne nous est pas décrit de manière comme si nous devions apprendre par cœur, hein, je crois, dans les catéchismes de nos enfances ou de celles de nos aînés. On apprenait par cœur, Jésus est comme ci, Dieu est comme ça. Eh bien, ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est suivre le chemin, le cheminement d'un homme qui nous amène à Dieu, qui est Dieu. Et donc, eh bien, c'est pareil, on ne comprend pas tout comme ça, là, par un coup de baguette magique. Je crois que c'est en le fréquentant, on en parlait tout à l'heure, c'est, l'Écriture se nourrit d'elle-même. C'est en fréquentant l'Écriture, c'est à l'écoute de sa parole et avec lui qu'on le connaît plus et mieux, mais sans, au fond, le résultat n'est pas... Vous ne pouvez pas dire, ah ben voilà, j'ai passé 3000 heures dans la Bible, donc ça y est, maintenant, Jésus, je le tiens. Mais non. En revanche, vous passez 3000 heures avec Jésus, vous n'en dites pas plus, vous en dites plutôt moins, mais vous vivez avec lui, plutôt plus. Et donc, d'une certaine façon, ça ne sera pas dans votre discours, ou en tout cas pas immédiatement, mais ça sera dans votre vie. Et j'allais dire... C'est d'ailleurs pas vous qui en jugerez, c'est plutôt les gens qui rencontreront Jésus à travers vous, avec vous, en vous. Et tout cela, aucun de nous ne saisit très bien comment ça marche, et tant mieux, parce que justement, c'est le contraire de tous ces magiciens, de tous ces supermen, de tous ces héros de nos enfances. Mais que l'amour, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus, à la fois plus simple et en même temps beaucoup plus indéchiffrable que nos histoires pour enfants.
Alors oui, ça c'est intéressant finalement parce que qu'est-ce qu'on peut attendre comme salut de Jésus-Christ ? Je crois que tu as raison. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une connaissance, bon certes, d'accord, mais au-delà, c'est une transformation de l'être, tu dis finalement. Et je crois que c'est important parce que souvent on entend, dans certaines églises peut-être, ou dans d'autres religions surtout en fait, voilà, le salut c'est quelque part une amnistie, c'est-à-dire que nos péchés soient effacés, qu'on soit marqué dans le livre de vie, etc. Ça c'est quelque chose qu'on peut entendre, surtout dans d'autres religions non chrétiennes. Parfois dans des églises chrétiennes, le salut est compris donc comme quand on est reçu au bac finalement. On est marqué sur une liste pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'on est pardonné, soit parce qu'on a été estampillé comme étant bon, soit parce qu'on a la moyenne, machin, etc. Là, c'est pas tellement la question. La question, on le voit ici, ce verset 5, c'est une, comme tu dis, c'est une transformation de l'être. Ce qui est de l'ordre... de l'annonce de l'amnistie, finalement, ça, c'est du Jean-Baptiste. Ce n'est que la préparation, finalement. Ce baptême pour la rémission des péchés, voilà, pour le pardon, pour l'amnistie, bon, c'est du Jean-Baptiste, c'est-à-dire c'est la première étape. Une première étape qui permet justement, peut-être, de s'ouvrir tranquillement, cœur à cœur, face à Dieu, en Jésus-Christ, voilà. Exposer, bah oui, non pas tellement nos qualités sublimes, machin, au contraire, lui confier nos aveuglements, nos paralysies, nos boiteries, nos surdités, ce qui est mort en nous et ce qui est pauvre et démuni en nous pour que, bah, qu'il travaille là-dessus et que ce salut vienne comme une résurrection de notre être. Comme une élévation de notre être. Donc le salut, c'est un supplément d'être, comme tu disais, finalement. C'est pas Dieu qui a besoin de se convertir, finalement, et que quelque chose se débloque en lui pour nous accepter dans sa vie éternelle. Non. Ça, c'est du déjà fait. C'est ce qu'annonce Jean-Baptiste. La question, toute la question... c'est de se laisser... c'est vrai que c'est pas non plus comme un interrupteur. C'est ça qui est délicat. C'est plus comme une suivance, tu disais. Ça se fait en accompagnant le Christ, en accompagnant, finalement, en l'accompagnant dans cette recherche de Dieu, dans ce lent cheminement, finalement, patient cheminement, qui se vit comme une transformation de notre être. Alors, bien entendu, moi, je suis d'accord avec toi, ces guérisons, c'est pas d'abord des machins miraculeux, enfin, je veux dire, au sens spectaculaire du terme. Voyez, toutes les guérisons qui sont évoquées ici, bon, la lecture spirituelle est parfaitement évidente, voyez, parce que moi, personnellement, bon, c'est vrai que je vois pas très bien, mais je suis pas complètement aveugle. Boiteux, bon, pas tellement, en fait. Lépreux, pas du tout, grâce à Dieu, j'allais dire, mais je veux dire, quand quelqu'un est lépreux, c'est pas malgré la grâce de Dieu, donc c'est plus compliqué que ça aussi. Je suis pas tout à fait mort, enfin en tout cas au sens biologique, littéral, pas tellement. Pauvre, ben, j'aimerais être plus riche, sans doute, c'est plus commode pour la vie courante, mais quand même, il y a un paquet de monde qui est plus pauvre que moi. Bon, je veux dire, nous tous, là, je dirais, si on est dans la planète, 95% des gens sont plus pauvres que nous. Donc en fait, on pourrait dire, ben, ce verset, tant mieux, c'est pour tout le monde sauf pour moi. Ben si, c'est pas comme ça, bien sûr. Et ce verset, nous pourrons, voilà, vivre ce salut en Jésus-Christ, en être les témoins et au bénéfice, finalement, si dans un certain sens, ben voilà, on le comprend allégoriquement. Alors c'est ce que nous propose, bon, il y a des tas de passages, évidemment, hein, dans l'évangile selon Jean, il y a l'aveugle-né, il y a une relecture à la fin, c'est quoi, c'est Jean 9, non? Il y a une relecture en disant, ben, les vrais aveugles, hein, c'est les pharisiens, quand ils, justement, sont tellement sûrs de leur connaissance. Bon, c'était des pharisiens intégristes, parce que les pharisiens...
Dont Jésus
n'était pas si mal du tout, en fait. Voilà. Bon, des pharisiens intégristes, tellement sûrs de leur bonne doctrine, de leur bon machin, que de leur saine religion, que du coup, ils sont complètement aveuglés par leur manque d'attente. Du coup, ils ne peuvent pas voir celui qui est venant, finalement. Donc, les sourds, on pense tout de suite à ce commandement fondamental du judaïsme. Écoute, Israël. Écoute le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, donc celui qui n'écoute pas. Et ça, on va le revoir plus loin, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, vous voyez, on est bien là dans une lecture spirituelle, bien sûr. La question, c'est d'être à l'écoute de ce, ben, voilà, de la réalité de la vie, de la réalité du monde, à l'écoute peut-être d'une vraie compassion de l'autre, à l'écoute d'une vocation que Dieu nous adresse, par lequel il nous confie telle personne, tel chantier, tel projet, je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est tout comme ça, hein. Mort, bien sûr, on n'est pas complètement mort, mais dans un sens, il y a quelque chose en nous qui n'est pas... Notre cœur n'est pas pleinement dégelé, on n'est pas... Voilà, je ne sais pas. Et puis pauvre, ben oui. Pauvre, c'est pour recevoir cette richesse formidable, finalement, qu'est ce qui vient de Dieu et qui nous annonce qu'en fait... Nous sommes riches d'une richesse formidable, voilà. Peut-être, par exemple, dans le début de l'évangile selon Matthieu, quand on dit « Vous êtes la lumière du monde », ça, c'est vraiment l'annonce d'une richesse incommensurable qui est au plus profond de nous-mêmes, une richesse que nous sommes, finalement, par une luminosité, je ne sais pas. Oui.
En revanche, si on poursuit dans ces villes, justement, il y a quelque chose qui me gêne dans ce chapitre 11, c'est quand même une condamnation assez forte. Alors pourquoi, là, il conviendrait qu'on prenne un peu de temps pour creuser ça. C'est qu'on a l'impression que donc, en effet, Jésus n'est pas ce messie glorieux, messianique, classique, tel qu'on pourrait attendre, ce général vainqueur de Palestine, contre le joug étranger. Donc c'est pas du tout ça, d'accord, on quitte le champ militaire, on quitte le super-héros, on quitte Superman. Mais pourquoi diable, si j'ose dire, se heurte-t-il à tant d'incompréhension? Je veux dire par là que si vous regardez les versets attentivement, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de condamnations de la part de Jésus. Et que, en tout cas chez Matthieu, dans ces versets-là, il dit « À quoi je comparerai cette génération ?» Elle n'a pas l'air très bonne, cette génération, il le dit à d'autres endroits, mauvaise, bon, au cœur, enfin, comme le peuple élu était au cœur fermé, au cœur de pierre et à la nucrède. Et voilà que on a joué de la flûte pour vous et que vous n'avez pas dansé. Et voilà que Jean-Baptiste a été extrêmement austère et vous avez dit qu'il avait un démon et que le Fils de l'homme a mangé et bu et que vous avez dit qu'il était glouton et ivrogne. La condamnation est quand même assez unanime, hein. C'est toute la génération qui y passe, puis c'est tout Capharnaüm. Bon, et puis finalement, la seule qui trouve un peu grâce, c'est Sodome qui a connu le destin que l'on sait. Donc, ben, tout ça est un peu embêtant. Alors, il y a bien sûr des couches historiques. Nous sommes dans la communauté mathéenne, nous sommes juste après la rupture de 70. Hein, vous savez que le temple de Jérusalem a été anéanti, que Jérusalem a été prise par les Romains, qu'il y a eu la diaspora à travers le pays et que c'est à Tyr et à Sidon probablement que se retrouvent les Mathéens. Et que donc, bon, on peut comprendre que les villes classiques, etc., soient mal considérées. Et que finalement, il est quand même bien vrai que finalement, lorsqu'on regarde l'histoire de ce Jésus, on ne peut pas dire qu'il ait rencontré beaucoup de réussites. Finalement, ils n'étaient pas très nombreux du côté de la croix. L'épopée de ce Jésus-Christ de nos évangiles n'est pas une l'épopée d'Alexandre le Grand ou de je ne sais quel autre héros de l'Antiquité. C'est plutôt l'histoire d'un échec, comme Jean-Baptiste se heurte à un échec et qui se solde, vous l'aurez remarqué, par la mort violente dans les deux cas et par finalement, même si tous les deux ont fait des disciples et que tous les deux ont survécu à travers les siècles, hein, je dirais à travers leurs disciples et leurs églises, en tout cas, on est loin de la période de Constantin, etc. On est dans un début de christianisme extrêmement fragile. Lorsque Matthieu et les autres évangélistes écrivent, ce n'est pas du tout l'ère chrétienne victorieuse, etc. On est plutôt dans les catacombes que dans les cathédrales. Hein. Mais pourquoi ? Je vais essayer de poser ma question autrement. Jésus, comprenant l'humanité et partageant sa difficulté face au péché, face à la violence, pourquoi y a-t-il quand même une condamnation, hein, pourquoi, alors, que Jésus se soit heurté à bien des murs, ça on peut tout à fait comprendre, on a tous les éléments pour ça, mais que Matthieu lui fasse dire que finalement mauvaise génération, mauvaise ville, etc., ça manque un peu de compassion dans ce chapitre.
Ben, je ne sais pas, parce que quand il y a marqué malheur, c'est pas une malédiction, contrairement à ce que peut laisser penser le français. En fait, c'est mal traduit. Je ne sais pas très bien comment ils ont mis dans la Bayard, mais cela dit, c'est au verset 21. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Il y a marqué malheur à toi, Corazine. Mmh, mais en fait, non, c'est ça veut dire, ben, puisque tu étais moitié Marseillais, ils disaient, ben, oh pauvre.
Pauvre de toi. Oui, d'accord.
Mais c'est plutôt ça, en fait. C'est-à-dire, c'est une lamentation en disant, oh là, mais pauvre, hein, comment on peut faire? C'est plutôt ça. C'est une.
Peu cher.
C'est un cri de. Comment dire? C'est un cri de tristesse. C'est un cri de.
De désolation.
De compassion, enfin, justement.
Mon pauvre
de
garçon.
Compassion. C'est un cri de compassion, en réalité, je crois vraiment.
Bon, j'aime mieux.
Moi, je crois. Et puis. Quand il y a marqué cette génération, en fait, cette génération, ben, c'est-à-dire c'est la génération au sens de la génération, j'allais dire, animale, c'est-à-dire qu'on est effectivement, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas que leur génération, c'est toutes les générations. Et souvent, on parle On parle du péché originel, voilà. Mmh. Mais le péché originel, ce n'est pas une faute qu'a fait notre arrière-arrière-grand-mère et grand-père et qui se transmettrait ensuite par, comme une maladie vénérienne par relation sexuelle interposée. Ce n'est pas ça du tout qui est en cause dans ce péché originel. Le péché originel, c'est une faute fondamentale et qui est finalement commune à tous les animaux que nous sommes. Et c'est quelque chose, voilà, nous naissons comme ça, nous naissons animaux, nous naissons avec ce désir, ben, quand même peut-être, comme c'est indiqué ici avec la flûte et la danse, voilà, d'être suivi par les autres, d'être dans le pur ressenti, je ne sais pas moi comment on peut dire ça, d'être sur la place publique et puis de vouloir que tout le monde suive notre tempo finalement. Alors que là, ce qui nous est proposé en Jésus-Christ, c'est une autre vision peut-être du monde, de notre rapport aux autres, quelque chose qui n'est peut-être pas si naturel. Donc on ne peut pas, bien sûr, Dieu est le premier à ne pas nous en vouloir, de ne pas être nous-mêmes christiques à notre naissance. Comment le serions-nous ? À notre naissance, nous sommes une petite grenouille, si vous voulez, donc on ne peut pas nous en vouloir. On veut que notre maman soit là pour nous consoler quand on pleure, qu'on nous apporte un biberon quand on a faim, et que quand il fasse froid, ben, on mette le chauffage. Donc en fait, on est dans cet égoïsme, et c'est tout à fait normal, c'est naturel, c'est comme ça. C'est un péché originel. Bon, on est appelé à autre chose, mais cette génération qui est la nôtre, nous sommes comme ça, et ça mérite une compassion. Et donc, nous sommes, à notre naissance, prisonniers de cette façon d'être, voilà, primitive, simplette, et donc nous sommes appelés, d'ailleurs on le retrouve, à être, à nous reconnaître comme enfants,
oui.
Et ça on l'a peut-être bien au verset 27 finalement, à la fin, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, mais ce Fils avec un grand F, d'accord, c'est Jésus de Nazareth. Mais ce Fils, nous, on ne mérite peut-être pas un F majuscule, mais on mérite un F minuscule. Quand on s'est laissé un peu enfanter, guérir, ressusciter par Dieu, à ce moment-là, on peut être témoin du Père, effectivement. Mais pas comme un perroquet qui récite une leçon, ou comme une gnose, comme une connaissance, mais comme une expérience. À ce moment-là, on n'est plus simplement enfant d'une génération, c'est-à-dire d'une simple enfant de la chair, comme le dirait l'apôtre Jean dans le prologue, mais on est fils autrement de Dieu, pas simplement comme un animal est créé par Dieu, donc dans un sens enfant de Dieu, mais ou simplement adopté par Dieu, mais oui, on a une expérience de cet amour de Dieu, de cette lumière, de cette compassion, et à ce moment-là, oui, mais à ce moment-là, pour ça, il faut s'être reconnu comme enfant, s'être laissé, je dirais justement, apporter, enfanter par Dieu quelque chose. Alors cette idée, je crois, de la génération du monde qui fait attention à l'apparence, on l'a bien au verset 7 et 8. Hein. Qu'est-ce qui vénamment est vraiment, en quoi est-ce qu'on reconnaît vraiment l'importance et la valeur, hein.
Alors, aux habits. Hein,
alors, est-ce que c'est aux habits, est-ce que c'est au palais magnifique, etc. Bon, je veux dire, c'était ni hier ni aujourd'hui qu'on mesure la valeur des personnes au nombre de pièces qu'ils ont dans leur maison, au nombre de cylindres qu'ils ont sur le capot, au nombre de zéros qu'il y a dans le compte en banque. Je ne sais pas, si vous voulez, bien sûr, c'est naturel de se dire, Bill Gates, il possède quelques milliards, c'est quand même sacré bonhomme. Voilà, je suis d'accord, c'est vrai, c'est important. C'est surtout important d'ailleurs parce que les Bill Gates et ses copains, ils ont décidé de donner, d'en faire un petit club de gens, hein, j'ai vu ça, je l'ai mis sur le blog, un club de gens qui disent donnent au moins 50% de leur fortune pour les œuvres caritatives. Et une bonne partie donne 90%. Bon, je veux dire, alors on peut dire ils sont riches, ils ont de quoi, mais ça demande un effort à eux comme à nous aussi. Donc, bref, c'est une autre question. Donc, si vous voulez, c'est une question intéressante. Et quand Jésus dit, voilà, au verset 7, que cherchez-vous en fait, hein? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Qu'est-ce que vous êtes allé voir vraiment avec Jean-Baptiste? Ben, c'est une bonne question, finalement. À quoi est-ce qu'on attache de l'importance? À quoi est-ce qu'on reconnaît de la valeur? Est-ce que c'est au visible? Ou est-ce que c'est à quelque chose qui est de l'ordre du spirituel? Je crois que c'est là à savoir de qui on est le fils, de qui on est l'enfant. Est-ce qu'on est simplement enfant de la génération de la chair, du sang, de l'animal, d'une culture, des a priori, du visible pur, du matériel, ou si on est un peu enfant du Père qui est dans les cieux?
Oui, et alors en même temps, je réponds moi-même à ma propre question tout à l'heure, et c'est là qu'on voit que les Écritures sont composites. C'est que précisément quelques versets après ces houspillements, ces reprises, cette façon un peu de nous tenser, il y a des phrases de réconfort absolument admirables, que l'on connaît tous. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. » Ça, c'est une belle promesse. Et puis, un peu plus loin, « Je suis doux et humble de cœur. » Et « Avec moi, vous trouverez le repos de vos âmes. » La Vierge Marie, souvent consolatrice, nous savons bien que dans le christianisme, il y a énormément de consolation à rechercher, de prières pour les difficultés. Et là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement humain, mais nous avons besoin de réconfort, de protection, d'amour, on a tous des soucis, à un moment ou à un autre, plutôt plus gros par moment, plutôt il y en a qui en ont manifestement plus que d'autres, et il y a quand même cette idée, là aussi, d'accepter, d'assumer d'être des enfants, au sens de l'enfant qui vient se blottir près de ses parents, sa mère ou son père, lorsqu'il a peur, lorsqu'il a froid, lorsqu'il a faim, lorsqu'il est triste. Et il y a cette notion... donc il y a à la fois... Au fond, on comprend qu'il y a là beaucoup d'intimité, beaucoup d'amour, mais c'est dans cette sphère-là que ça se joue. Et effectivement, qu'on est relativement loin du matériel, du destin historique, du cours des choses, qui est, semble nous dire le Christ, qui est la résultante des hommes. Enfin, je veux dire, nous n'avons pas à nous en prendre à Dieu pour les cataclysmes, pour une grande série de cataclysmes, pour lesquels il faut quand même reconnaître que nous sommes amplement responsables. Je crois qu'on vit dans une époque où on va commencer de payer les idioties écologiques, le n'importe quoi qu'on a pu faire avec, en croyant se débarrasser de nos saletés dans le tiers-monde, nous retombe dessus. J'allais dire, à un moment, il y a presque une logique de rétribution. Et on comprend bien que la foi, que le lien à Dieu se joue sur autre chose. Encore une fois, beaucoup plus personnel que les accidents de l'histoire ou que ce qui peut nous arriver, qui peut être d'ailleurs positif ou négatif, mais qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond qui est le cœur même de notre existence. Alors, pour les uns, on parlera de l'âme par rapport à la chair, au corps. En tout cas, l'histoire du cœur, le mot cœur est extrêmement parlant, parce que tout le monde comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un muscle cardiaque, mais qu'il s'agit bien d'un siège de l'émotion, de l'affectif, du sentiment, probablement de l'amour, enfin que ça se joue quelque part à ce niveau-là, et pas au niveau de l'habillement, de la prison, des forces en présence et de la stratégie militaire ou politique. Donc, il me semble que ce chapitre 11, qui se passe à la ville, je dirais, contrairement au désert, nous dit pas mal de choses, peut-être moins sur ce que l'on peut attendre que sur ce qu'il ne faut pas attendre de Dieu, au sens où toutes les idoles que l'on peut se forger, même des idoles rassurantes, ne sont pas Dieu. Et je crois que Jésus, qui est dans l'authenticité, la simplicité, n'a pas envie de nous faire rêver. Il ne veut pas nous raconter des histoires. D'ailleurs, il nous promet plutôt à la Churchill du sang et des larmes que de gagner au loto. Mais au fond, même ça, on comprend que l'essentiel, il n'est pas là. Que l'aventure se passe sur un autre. L'aventure, elle est dans la vie véritable. Elle est dans notre vie et en plus dans chacune de nos vies personnelles, uniques, il me semble.
Alors ça, oui. Cela dit, là où je suis un petit peu plus de réserve, c'est sur le côté composite, parce que justement, moi je crois que voilà, l'Évangile, et en particulier les paroles de Jésus, sont assez souvent dialectiques. C'est-à-dire que c'est justement dans une tension, dans quelque chose qui nous gratouille, qui nous fait poser des questions, et c'est à travers ces contradictions, je ne sais pas s'il faut l'appeler contradiction, il faut l'appeler des tensions finalement, c'est quelque chose qui est particulièrement fécond et qui nous envoie en route. Alors c'est vrai que là, il y a une tension qui est très forte, avec « je suis doux, humble de cœur », voilà, donc c'est cette douceur du Christ. Alors ça, on est content parce que ça correspond bien à ce tendre Jésus, un peu mièvre, hein, qu'on voit sur les images. On l'a sur le tableau qui est au fond, on le regarde, il a un peu les mêmes cheveux qu'un cocker. En tout cas, il a tout à fait les mêmes yeux. Donc, c'est assez simple. Voilà, ça, on a le doux Jésus. Voilà, ça, on est content, voilà. Ça va bien. Voilà. Et la tendre Sainte Vierge, lisez son Magnificat, si vous voulez, ça rigole pas tout le long, quoi. Je veux dire, ça annonce des retournements, ça annonce une transformation du monde, une louange pour la transformation du monde. C'est pas la mièvrounette petite bonne femme habillée en bleu et en doré qui illumine, etc. C'est quand même une sacrée bonne femme, je veux dire, qui croit en quelque chose, voilà. Et donc, ce tendre Jésus, oui, certes, cette consolation, je crois que ça, c'est quand même une expérience du croyant disant, mais ça, je dirais, vraiment, un paquet de monde, et y compris les personnes âgées qu'on rencontre, hein, combien nous disent, bon, elles ont eu une vie plus dure que celle qu'on n'aura jamais eue, je pense, hein, quand même, il faut les voir, donc, ce qu'ont traversé, j'allais dire les grands-mères qu'on enterre aujourd'hui, mais... Quelqu'un, les personnes qu'on enterre qui ont 90, qui ont 100 ans, et ils ont eu des vies quand même, il faut voir, il faut imaginer ce que ça représente, ce qu'elles ont traversé comme deuil à la première guerre, grippe espagnole, on se plaint de la crise, il faut voir les années 30, je veux dire, bref, c'est pas la question. Mais ces gens-là témoignent en disant vraiment que par la foi, elles ont pu tenir debout, que ça a été un bénéfice extraordinaire. Donc oui, je crois que ça, on peut le dire. Il y a une consolation dans la foi, ça, c'est pas de la blague, c'est vrai, hein, dans des trucs terribles. Mais cela dit, cette douceur et cette consolation, il y a aussi, hein, comme il le dit, voilà, le royaume de Dieu est pour les violents, pour ceux qui s'en emparent. Donc il y a quand même, en même temps, une consolation, une douceur, en même temps, il y a une détermination, si vous voulez. Et c'est vrai que quand on voit les guérisons qui nous sont proposées, c'est au verset 5, des yeux qui voient. On ouvre les yeux, on voit quoi ? Ben, on voit des belles choses et on nous invite, effectivement, hein, en particulier avec cette histoire de, voilà, de Capernaum, là, de Capernaum, en disant, mais quand même, les signes et les miracles qui ont eu lieu au milieu de vous, ça vous fait rien. Donc on nous appelle à ouvrir les yeux, oui, sur des tas de belles choses qui se réalisent dans notre vie. Le voir est dans la louange et que ça nous donne envie de changer. Donc, ça, c'est une exhortation, je veux dire, délibérée à utiliser ces yeux que le Christ nous donne pour voir clair, pour voir les belles choses. Mais en voyant les belles choses, on voit aussi tout ce qui ne va pas dans le monde, et tu l'évoquais. Du coup, en même temps, il y a une consolation, c'est vrai, en voyant des tas de belles choses, des tas de gens formidables autour de nous, et puis une vraie compassion, un vrai cœur, ça existe quand même. Énormément, énormément. Mais en même temps, on voit des souffrances, on voit des trucs, et puis tout d'un coup, on a des oreilles qui s'ouvrent peut-être pour se sentir concerné. C'est-à-dire, voilà, c'est un tel chantier, peut-être que je pourrais faire quelque chose, moi. Donc, vous voyez, en même temps, il y a une douceur, une consolation, en même temps, c'est pas quelque chose qui laisse en repos, quand même. C'est du repos, oui, mais c'est pas du repos arrêté, c'est pas du repos endormi, c'est pas des vacances. C'est quelque chose, parce que le repos, si vous voulez, le repos en hébreu, ça veut pas dire la sieste, en fait. C'est un autre mot, c'est le repos... C'est le repos, c'est un état stable, c'est comme la paix, le mot paix, c'est pas être tranquille, c'est être dans un état abouti, si vous voulez, avoir des capacités en ordre de marche, et voilà, de se dire, j'y crois et on y va, vous voyez, donc c'est aussi une violence et une détermination, dans un sens. Et puis, voilà, de se dire, moi je vais y aller, je vais bouger les choses, et puis avec des jambes qui marchent, donc une mise en route d'y aller, etc. Il y a une détermination, peut-être pas une violence, si, c'est peut-être une violence, quelque chose qui est fort. Voilà. Donc je crois que oui. Alors peut-être aussi on a trop insisté sur l'humilité pour recevoir, etc. Mais quand même, là, c'est l'occasion de le noter. Souvent, dans l'Évangile, on nous appelle à prendre, vous voyez, ne serait-ce qu'à la scène, prenez et mangez. Il n'y a pas marqué recevez, il y a marqué prenez. Il y a l'idée vraiment de s'en saisir, vous voyez, une détermination. C'est pas simplement... il faut s'en saisir, et c'est quelque chose qui est... J'allais dire qu'est viril, mais on pourrait croire que c'est réservé aux hommes. Mais non, c'est déterminé. Voilà, c'est déterminé, c'est puissant, c'est actif, c'est l'idée de s'en saisir quand même. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose là qui, peut-être comme tu le disais en introduction, qui nous fait réviser peut-être notre tendre Jésus. C'est quelque chose de trop doucereux peut-être quand même dans un évangile qui a été trop bêlé, quoi. Vous voyez ce qui a été quand même. Je dis ça en me moquant des prédicateurs dont je fais partie. Donc.
Et, oui, alors, en plus, Jésus, il prend souvent à contre-pied, quand même, par rapport aux attentes. Là, effectivement, il est à la fois là. Je te rejoins tout à fait dans ta dialectique, dans les tensions permanentes. Il y a un verset qui est. Je crois que je vous propose que nous terminions avec celui-là parce que c'est un verset qui est quand même une très bonne leçon. C'est le verset 25, lorsqu'il dit « Je te célèbre, Père du ciel et de la terre, car tu as caché cela aux sages et aux intelligents, bigre, et tu l'as révélé aux petits enfants. » Alors, comment interpréter cette chose ? Alors, évidemment, on comprend tous que science et ruine de l'âme peuvent aller de pair. On comprend tous que il ne s'agit pas, là encore, d'aller à Polytechnique, que le Christ est dans une autre dimension. Est-ce qu'il fait pour autant l'apologie de l'inculture et de la bêtise ? Je ne crois pas. En revanche, je crois qu'il y a l'intelligence du cœur et qu'il y a l'intelligence... du discernement. Ce qu'il fustige, c'est probablement la sophistication, le pharisianisme au sens mauvais, c'est-à-dire les docteurs de la loi les orgueilleux. Ça ne veut pas dire, je crois, qu'il ne plaide pas pour une intelligence de la foi, pour un travail de recherche, pour aller au bout de nos charismes et d'exploiter précisément notre capacité à comprendre, à chercher, à rechercher, à progresser. Mais je pense que comme tout le reste, c'est une question d'attitude. C'est-à-dire en restant humble. Mais humble, ça ne veut pas dire modeste, sans ambition, sans rien. C'est-à-dire que ne pas se prendre pour le Dieu le Père. Jamais. Et toujours se souvenir, justement, que voilà, nous sommes qui nous sommes, mais pas plus. Pas moins, mais pas plus. Et je crois que lorsqu'il parle des petits-enfants, il y a probablement l'idée aussi que le petit-enfant a besoin des autres. Que c'est l'infant, c'est le Jésus de la crèche. C'est-à-dire dépendant des autres et pas ces êtres supérieurs et autonomes, vous savez, qui n'ont besoin de personne puisqu'ils savent tout, qu'ils peuvent tout faire. Et je crois que c'est pas ça, Jésus. Je crois que c'est une solidarité, un dialogue permanent. L'idée que même si on a fait 10 années d'écriture sainte, eh bien, on a quelque chose à apprendre de l'autre, qui qu'il soit. Que ce n'est pas une question de niveau, que ce n'est pas une question de connaissance, que c'est plutôt une question d'ouverture, d'amour, de fraternité. Mais je crois que c'est, dans un groupe biblique, c'est un verset qu'il ne faut jamais oublier. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, j'en pense que ça, ce que tu me dis, en fait, me rappelle saint Augustin dans les Confessions. En fait, il dit, donc il était professeur d'université en rhétorique, en fait, donc en, je dirais, c'est comment on pourrait dire, en, c'est quoi, de la philosophie.
Oui,
c'est
oui,
la,
c'était un grand orateur.
C'est de la logique, oui. C'est des mathématiques aussi, peut-être. Hein. Donc, oui. En fait, il était professeur d'université, donc, et très
brillant.
Reconnu, sûrement brillant, donc on peut parler d'un sage et un intelligent. Et il était savant déjà en écriture sainte, en Bible, mais ça ne lui apportait rien. Donc, il avait à la limite la connaissance, mais pas, puisqu'on avait commencé là-dessus, mais pas finalement ce qu'on appelle en français courant le kérigme, c'est-à-dire ce qui vraiment est de l'ordre du bouleversement de l'être. Voilà. Et donc, il dit, mais bon, en fait, c'est parce que je le lisais en savant. Et il y a quelque part, l'écriture s'est comparée à Saint-Eustache, à une basilique magnifique, mais avec des portes toutes petites et étroites. Quelque part, pour rentrer dedans, si on est comme ça, debout, très fier, pum, on se cogne la tête et on n'arrive pas à rentrer dedans, il faut quelque part se faire petit pour rentrer dedans, et à ce moment-là, on voit les voûtes immenses, et l'écriture grandit avec nous, finalement. C'est-à-dire que, et ça, on l'évoquait à notre repas juste avant, il y a des tas de livres de philosophie, on en a marre une fois qu'on a lu 3 fois le bouquin, alors qu'en fait, dans l'écriture, peut-être à cause de cette dialectique, on peut le lire et la relire sans cesse, même toute une vie, si on le vit, comme tu le disais, dans cet esprit d'y trouver quelque chose pour soi-même. Hein, là, on le retrouvait, mais on l'a souvent dans les évangiles. Que cherchez-vous? Voilà. Si vraiment on cherche quelque chose, en se reconnaissant comme devant grandir, comme tu disais, à ce moment-là, l'écriture sans cesse va nous permettre d'être enfantés par Dieu dans ce cheminement. Voilà. Alors, ce n'est pas l'écriture qui nous enfante, mais c'est dans cet exercice, ça peut être le lieu d'une expérience de Dieu qui nous donne un supplément Dieu, de supplément de jambes, un supplément d'oreilles, un supplément de cœur peut-être aussi, d'intelligence, de réflexion personnelle. Et ça, je crois que c'est vraiment lors d'une résurrection. Alors, peut-être que ça fait un programme pour notre année 2011 et un peu plus.
Alors, simplement, il nous reste 2 minutes pour nous dire que au mois de février, nous nous retrouverons à l'Oratoire du Louvre. Et bien, cette fois-ci, nous atteindrons Jérusalem. Nous atteindrons Jérusalem. Et nous verrons que Jérusalem peut être à la fois au moins autant la paix de Dieu que la folie des hommes. Donc, nous pourrons en discuter autour de Jérémie.
Non, il y a autre chose à annoncer, la célébration.
Alors, entre-temps, nous avons une date qu'il nous faut absolument tous noter dans sur notre marbre. La semaine de l'unité des chrétiens approche et Saint-Eustache et l'Oratoire du Louvre ont décidé de s'associer naturellement, très naturellement, et entre autres, bien sûr, dans la continuité de ce que nous faisons ce soir et les autres soirs, pour proposer à tous une célébration œcuménique dans le cadre de cette semaine de l'unité, en lien avec toutes les églises du monde qui travaillent au rapprochement, au dialogue. Et donc, nous reprenons le programme universel de ces églises qui, cette année, concerne les Actes des apôtres, la fraternité des apôtres à Jérusalem. Donc, nous vous donnons rendez-vous, nous nous donnons rendez-vous tous, mardi 18 janvier prochain, c'est dans une quinzaine de jours, un peu moins, dans une toute petite quinzaine de jours, à 20h. L'an dernier, nous nous étions retrouvés, assez nombreux, à l'oratoire du Louvre. Nous étions, 200, 300, autour des principaux représentants de nos églises à Paris pour célébrer ce travail commun. Et bien, cette année, il y aura un rendez-vous à Notre-Dame de Paris le mercredi soir autour de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Et nous vous proposons plus modestement, entre Saint-Eustache et l'oratoire, la veille, pour tous ceux qui le souhaitent, de nous retrouver pour célébrer ensemble ce moment ce moment de dialogue, de fraternité, d'échange, et tout ce que l'on peut souhaiter d'ailleurs pour les années à venir. Donc vraiment, nous insistons beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui sont avec nous ce soir, qui participent à l'animation. Donc toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient d'une manière ou d'une autre y participer, merci de garder quelques minutes ici pour en parler. Voilà.
Pour manifester.
Donc, nous nous donnons rendez-vous donc en février à l'Oratoire du Louvre et d'abord le 18 janvier à Saint-Eustache.
À 20h, c'est
ça ? À 20h.
Ici ou dans l'église ?
Dans l'église, voyons.
Dans le cœur.
Dans le cœur. Ce sera une célébration, donc petite liturgie. Nous écouterons la parole et nous écouterons le pasteur prêcher. Et puis nous échangerons des intentions de prière. Et puis nous aurons quelques gestes et prières communes. Et nous pourrons certainement prendre un temps de convivialité d'ailleurs dans cette même pièce à l'issue de cette célébration. Voilà, je crois que ça fait partie vraiment de ce qui nous anime, et je crois que nous avons tous envie et besoin de nous retrouver nombreux.
Oui, c'est vrai que lors de la préparation, tu disais, c'est intéressant que souvent on est ici, c'est quand même très cérébral en fait. Et c'est vrai que là, c'est une occasion que ça soit plus priant, parce que c'est une autre dimension aussi qui est importante. D'avoir cette dimension un peu de prier ensemble, parce que c'est un peu les deux jambes finalement de notre foi chrétienne, la réflexion, la lecture de la Bible, le côté intelligence, oui, connaissance, intelligence qui est mobilisée, mais aussi l'émotion religieuse, la prière, l'ouverture, le chant, la louange, oui. C'est aussi une dimension importante et qu'on a joie à partager ce jour-là.
Et qu'on peut faire ensemble sans aucun a priori, voilà, comme on est, avec ce qu'on est, de là où on en est, et de partager tout ça dans un même cœur, ma foi, et en nous rappelant ce que nos premiers ancêtres chrétiens ont fait ensemble. Je crois que ça ne peut que nous apporter du bien.
Ok, merci.
Merci. Et donc, celles et ceux qui souhaitent y participer un peu plus activement, qu'en étant simplement présent, merci de bien vouloir vous manifester auprès de Chantal ou de Monique qui sont au premier rang là, pour qu'on puisse un petit peu prévoir les choses.